les eaux Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Jérémy Rainville.
18h05, les Suisses tiennent toujours le coup. C'est toujours 2-0 face à la Suède. On est en troisième période, 9 minutes 40 à faire. Je vous rappelle, quart de finale. L'équipe qui s'incline est éliminée du tournoi. Donc, situation problématique pour la Suède. Philippe Quentin est avec nous. Bonsoir, Philippe.
Salut, Jérémy.
Ben, dans un premier temps, bonne année 2019, Philippe.
Ben, merci beaucoup à toi aussi et à tous les gens qui nous écoutent.
Santé, bonheur, prospérité, du succès dans tes études, Philippe?
Ben, c'est ça. Puis une coupe Stanley avant la fin de nos jours.
Oh! Écoute, là, t'as des grosses demandes, Philippe. Parlons du Canadien de Montréal. Parlons de ce voyage de 6 matchs pendant la pause du temps des fêtes. Un voyage où, évidemment, entrecoupé avec la pause de Noël, qui s'est conclu par une victoire de 3-2 en prolongation du Canadien face aux Stars de Dallas. Si t'avais à trouver la clé de la bougie d'allumage de ce voyage du côté du Canadien.
Clairement, dans mon esprit, Jérémy, il s'agit du match à Vegas, le troisième de ce voyage-là. Le Canadien, à ce moment-là, avait remporté une victoire, subi un revers, et là, se retrouve à Vegas contre une équipe extrêmement difficile à vaincre à la maison. Une équipe qui a retrouvé ses marques après un départ un peu plus laborieux. Donc, un gros, gros test à Vegas. Et franchement, j'ai été impressionné par la victoire du Canadien. Non seulement le fait que l'équipe ait obtenu les 2 points, mais la manière dont elle s'est comportée dans cette rencontre-là, tirant de l'arrière par un but en fin de troisième période. Le Canadien a mis une pression de tous les instants sur la défensive des Knights et on sentait venir ce but égalisateur de Dano. Encore une fois, de l'excellent travail de Max Domi. Même chose en prolongation. Et donc, cette victoire-là, pour moi, si le Canadien participe aux séries éliminatoires, et on le sait, là, ça reste qu'un défi gigantesque, mais pour moi, cette victoire-là pourrait être un point tournant dans la saison. Parce que l'équipe a montré du caractère, du plaisir à jouer ensemble et est allé vaincre, un petit peu contre toute attente, une très, très solide formation.
Il va falloir donner beaucoup de crédit à Philippe Dano, qui dans ce match-là a marqué 3 buts. Écoute, ouais. Dano est en feu depuis ce temps-là. Dans ouais. ses 4 derniers matchs, 8 points pour Philippe Dano.
Bon, et c'est ça que ça prend dans une équipe comme le Canadien. Il faut absolument que à l'attaque, que ça soit partagé un peu. On ne peut pas simplement se fier au premier trio. On ne peut pas simplement se fier à Domi ou à Jonathan Drouin. Il faut vraiment que des joueurs, est-ce qu'on les appelle des joueurs de soutien, mais en tout cas, certainement pas des joueurs de premier trio, viennent apporter leur contribution. Et au niveau de l'attaque, ça avait été plus tranquille pour Dano depuis le début de la saison. Et là, ces buts-là, manifestement, lui ont fait du bien. Mais encore une fois, moi, c'est l'énergie qui a été dégagée par le Canadien dans cette rencontre-là qui m'ont impressionné. Et on a vu combien l'équipe s'est nourrie de ce succès-là dans la deuxième partie de son voyage où, encore une fois, ça a été quand même très, très, très bien réussi avec 2 victoires puis une solide performance à Tampa Bay. Mais, tu sais, malgré ça, et qui aurait pensé? Moi, en tout cas, j'aurais pas pensé que le Canadien remporterait 4 victoires en 6 matchs durant ce périple des 2 dernières semaines de décembre. On disait tous, ou à peu près, que ça avait le potentiel, cette séquence-là de matchs, d'être un point tournant de la saison. C'est sûr que si ça avait été des échecs à répétition, ça aurait été le cas. Mais malgré cette belle fiche, ben, c'est pas encore un point tournant, même si c'est encourageant, parce que quand tu regardes le classement, tu vois que la lutte est tellement serrée. Malgré ces 4 victoires-là, le Canadien participerait, si la saison prenait fin aujourd'hui, tout juste aux séries éliminatoires. Alors, ce sera une lutte acharnée jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de bons clubs. On voit que Buffalo a quand même ralenti un peu. Le Canadien a pris une deuxième vitesse. Maintenant, le défi pour Claude Julien et sa troupe, ça va être de maintenir cet élan-là. Et ça, dans la deuxième moitié de saison, on dit souvent là, c'est là que les bonnes équipes se distinguent de celles qui sont juste OK ou de celles qui sont moins bonnes. Et donc, pour le Canadien, le défi, c'est de rester dans le groupe des équipes de tête.
Je saisis la balle au bon, si tu veux bien, Philippe. Je sors hors sujet un peu, mais je regarde justement le classement quand tu parlais de ce classement extrêmement serré. Est-ce que tu apprécies cette forme-là des 3 premières formations par chaque division, meilleure deuxième, parce qu'il y a des formations qui sont parmi les 8 meilleures de l'association de l'Est, entre autres, puis ils peuvent rater quand même les séries de fin de saison. Est-ce que tu aimes cette formule-là?
Non, moi, je préférais l'ancienne formule. Je trouve aussi que c'est où, par exemple, on y allait association par association, puis c'était 1-8, 2-7, 3-6. Je pense aussi que ça récompense les équipes qui terminent parmi les premières dans leur association en faisant en sorte qu'elles vont affronter un rival qui va être parmi les moins bons qualifiés de l'association. Alors, je trouve qu'à ce moment-là, ça donne un sens à la saison régulière. Mais à l'heure actuelle, ce que je trouve le plus dommage, c'est que dès la deuxième ronde, on a des confrontations qui sont tellement bonnes potentiellement entre deux solides adversaires que ça risque, ça élimine de facto une très bonne équipe qui pourrait aller généralement plus loin. Alors prenons le cas par exemple de l'association où on retrouve Winnipeg et Nashville. Ben tu sais, ces équipes-là pourraient se rencontrer en deuxième ronde. Ça a été le cas l'an dernier et c'est dommage parce que c'est une confrontation qu'on devrait avoir en troisième ronde théoriquement.
Ouais, sauf que ça rend le spectacle intéressant. Ouais. Au début des séries de fin de saison, tout le monde est sur le bout de son siège parce que c'est, écoute, première ronde, deuxième ronde, c'est explosif, là.
C'est du grand spectacle. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus.
Bon, OK, laissons de côté la Ligue nationale de hockey. Et il y a eu le Boxing Day, il y a eu le Black Monday du côté de la NFL.
Oui.
Écoute, ça, les coachs ont perdu des beaucoup de... Hey, j'ai la liste, je vais t'en faire juste la petite nomenclature. Tu as Vance Joseph qui est congédié du côté des Broncos, les Bengals qui ont congédié leur coach, les Dolphins de Miami, les Cards d'Arizona, les Buccaneers avaient congédié leur coach. Ça, c'est grosso modo, sans compter les Packers qui avaient, c'était comme clair, qui avaient déjà congédié leur coach. C'est pas facile, la fin de saison dans la NFL.
Non. Et ça a été tout un lundi le 31 décembre. Je pense que tout ça s'est produit avant midi. Quatre entraîneurs qui se joignaient aux deux autres qui avaient déjà été congédiés dès la fin des matchs de dimanche et aux deux autres qui ont été congédiés pendant la saison. Mais c'est vraiment, depuis plusieurs années, une façon de procéder dans la NFL. Ça avait été la même chose l'an dernier et de mémoire l'année précédente aussi. Il y a une impatience auprès des organisations, puis c'est normal. C'est une business de résultats. Il faut vraiment qu'une équipe progresse. Et quand c'est pas le cas, la direction est très impatiente et c'est normal parce que prends par exemple le cas des Jets de New York qui ont congédié Todd Bowles. Eux, comment ils ont expliqué ça? Ils disent, on a un jeune carrière, Sam Darnold, qui a 21 ans, qui en était à sa première saison, qui représente l'avenir de la concession et manifestement, le coach n'a pas été capable de faire en sorte qu'il puisse exploiter son talent au maximum et qu'il progresse au rythme on aurait souhaité. Alors là, l'objectif, c'est un article du New York Times qui expliquait ça aujourd'hui, Jérémy, c'est que les Jets, ce qu'ils veulent faire, ce qui se dit à New York, c'est d'embaucher un entraîneur dont la première caractéristique, ça va être sa capacité à développer le corps arrière, ce jeune corps arrière-là. Et on le sait qu'au football, le corps arrière, c'est bien sûr le joueur le plus important, mais c'est le joueur le plus important dans tous les sports d'équipe confondus. Il n'y en a aucun dans... aucun sport qui est aussi important que le corps arrière au football. Le gardien de but au hockey, le lanceur au baseball, c'est clair que le corps arrière, toute l'équipe tient autour de lui. Mais par contre, des fois, tu arrives avec une surprise. Et c'est un peu ce qui se produit avec les Ravens de Baltimore qui sont allés en milieu de saison avec un jeune corps arrière qui, lui, est en train de prendre ses marques, mais où on mise d'abord et avant tout sur la défensive et les jeux au sol. Alors ça inquiète un peu les adversaires potentiels des Ravens en série. Tout le monde se demande un peu qu'est-ce que ça va donner, mais il en reste pas moins que développer le corps arrière. C'est au cœur du succès d'une équipe de la NFL. Puis, de toute façon, on le sait, c'est dans tout le football, c'est pareil. Regarde les Alouettes, les insuccès des Alouettes depuis 4 ans, c'est dû à quoi? C'est cette incapacité chronique à développer un corps arrière, à trouver un corps arrière qui va être capable de faire fonctionner l'équipe. Parce que sans ça, l'impact est même réel sur la défensive. Parce que si l'attaque n'est pas capable, avec son corps arrière, de vraiment de créer du momentum en zone offensive, de garder le ballon, bien, la défensive revient trop souvent sur le terrain. Les joueurs deviennent fatigués, ça donne une chance énorme aux adversaires. Alors, tout est en fonction des quarts et j'ai l'impression que c'est une tendance qui va encore s'accentuer, surtout que le football, aujourd'hui, avec les règlements où on protège de plus en plus les quarts arrière, c'est-à-dire que si on les frappe le moindrement illégalement, il y a des punitions sévères de 10 verges, de 15 verges, ça fait en sorte que les quarts peuvent encore plus donner leur plein potentiel, de donner encore plus de rendement à l'attaque, encore plus de passes complétées, encore plus de passes par la verge et on voit que c'est une tendance qui est lourde.
Ben, si on observe ça, comme tu le décris, je me demande, est-ce qu'un Mark Trestman de ce monde spécialiste des corps arrière devient un atout important du côté de la NFL?
C'est drôle, je pensais exactement à lui aujourd'hui, un gars comme Trestman. Moi, je ne sais pas s'il peut retourner comme entraîneur-chef. Ça n'a pas été un succès avec les Bears de Chicago. Pourtant, il avait bien commencé passé. Au début, tout le monde disait de bons mots à son endroit, puis finalement, bon, les choses se sont envenimées un petit peu, puis ça n'a pas fonctionné. Il a eu du succès à son retour dans la Ligue canadienne à sa première saison, Coupe Grey avec les Argonauts de Toronto, l'an dernier, plus difficile. Mais moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'un gars comme Mark Trestman, justement pour aider, parce que c'est un développeur de corps arrière, il me semble qu'il a sa place à tout le moins au sein du personnel d'entraîneur d'une équipe. Je ne sais pas s'il doit être coordonnateur offensif ou vraiment simplement entraîneur des corps, mais il me semble qu'un gars avec son expertise pour aider un jeune corps arrière, je ne serais pas étonné qu'il se retrouve éventuellement dans la Ligue nationale de football.
Philippe, avant de sauter au prochain sujet, juste te dire qu'il reste moins de 4 minutes. Les Suisses mènent toujours 2-0 sur la Suède.
C'est incroyable. Hein,
ça serait toute une surprise. Imagine si les Suédois t'aient éliminé.
Toute une surprise, mais Jérémy, ça fait combien de fois qu'on dit ça à propos des Suisses au cours des 4-5 dernières années dans différents tournois? Ça va être toute une surprise si les Suisses gagnent. Ça va être toute une surprise si les Suisses gagnent. Mais les Suisses gagnent de plus en plus régulièrement. Et tu sais, il y a une tradition de hockey en Suisse que parfois on ignore ou qu'on mesure mal au Québec, mais tu sais, le hockey en Suisse, c'est fort depuis des dizaines d'années. Et là, on sent qu'ils ont adapté leur technique d'entraînement, qu'ils ont vraiment fait un pas en avant et surtout qu'ils ont pris confiance en eux collectivement. C'est-à-dire qu'avant, les Suisses, il y avait des bons joueurs, puis il y avait un bon jeu collectif, puis ils prenaient le hockey très au sérieux, mais il y avait manifestement un problème de confiance. Quand ils arrivaient contre des équipes plus importantes, ils perdaient un petit peu leurs moyens. Je pense que ça se jouait beaucoup dans la tête. Mais aujourd'hui, on dirait que les Suisses n'ont plus de complexe. Et ça donne et ils jouent du hockey très, très solide, du hockey collectif de premier plan. Et ça donne des surprises comme celle-là, sauf que tout à coup, c'est moins des surprises parce qu'ils en causent tellement régulièrement.
Oui, il y avait quand même les devants 3-1 face à la Russie. Ils n'ont pas été capables de garder les devants malgré deux tirs de pénalité, une pénalité majeure. Écoute, c'était tout un spectacle, ça, c'est sûr.
Et là, ce soir, dans quelques minutes maintenant, c'est le Canada qui se retrouve avec un gros rendez-vous.
Exact.
Aussi, là.
Maintenant, parlons de la Russie qui a trouvé le moyen de ne pas collaborer encore avec l'Agence mondiale antidopage. Explique-nous ça.
Oui, bien, dans l'entente qui avait été conclue entre les Russes et l'Agence mondiale antidopage au cours de l'automne, et c'est une entente, tu te souviens-toi, qui a été décriée par des dizaines d'intervenants, c'est que l'Agence mondiale antidopage acceptait de réhomologuer le laboratoire, l'Agence antidopage russe, en autant que elle ait accès aux données du laboratoire de Moscou. Ça, le laboratoire de Moscou, c'est un endroit où des données sur les athlètes russes depuis plusieurs années sont stockées. Ce sont des données matérielles, des données numériques aussi. Et là, l'Agence mondiale antidopage a dit « OK, mais il faut que vous nous donniez accès à ça ». Et les Russes ont dit « C'est d'accord, on vous donne accès ». C'était l'entente qui est survenue au mois de septembre, mais ils ont dit « On ne peut pas faire ça tout de suite, donc, mais avant le 31 décembre, c'est sûr qu'on vous donne accès aux données du laboratoire de Moscou. Alors là, évidemment, ça ne s'est pas fait en octobre, ça ne s'est pas fait en novembre. On a attendu que l'échéance arrive très proche. Et juste un peu avant Noël, il y a une équipe de l'Agence mondiale antidopage qui s'est dirigée à Moscou pour aller justement prendre possession des données qui sont stockées au laboratoire. Et là, cette équipe-là n'a pas eu accès au laboratoire parce que les Russes ont dit que le matériel qu'apportait avec elle l'équipe antidopage de l'Agence mondiale antidopage, ce matériel-là n'était pas homologué selon la législation russe. Alors, il n'y a personne qui comprend trop ce que ça veut dire exactement, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas eu, les spécialistes de l'Agence mondiale antidopage n'ont pas eu accès au laboratoire de Moscou, ils ont dû retourner à la maison. Et là, il y a eu des appels même du directeur du laboratoire de Moscou en disant aux autorités de son pays « Hey, faites quelque chose parce qu'on risque d'être de nouveau mis au banc du sport mondial », mais tout ça n'a servi à rien. La limite du 31 décembre est maintenant écoulée et les données n'ont toujours pas été remises à l'Agence mondiale antidopage des données du laboratoire de Moscou. Alors là, ça crée une crise. La crise vient de repartir dans le sport mondial. Il y a quelques minutes à peine, il y a le Centre canadien pour l'éthique dans le sport. C'est quoi ça, le Centre canadien pour l'éthique dans le sport? C'est l'Agence antidopage canadienne. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est joint à celle d'une quinzaine de pays pour dire à l'Agence mondiale antidopage, écoutez, arrêtez la politique, l'approche diplomatique avec les Russes, d'essayer de faire des ententes avec avec eux, c'est infructueux, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment les remettre au banc de cet organisme international-là. Alors là, il semble avoir peut-être une certaine unanimité, mais parallèlement à ça, il y a le président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui hier a déclaré que les Russes avaient suffisamment payé pour ce qui s'était produit à Sotchi avec les sanctions qui leur ont été imposées aux Jeux de Pyeongchang. Alors là, on voit, Jérémy, qu'il va avoir un bras de fer. Ça, pour moi, ça va être clairement une des grosses histoires du début de l'année 2019. Entre, d'une part, ceux qui veulent exclure les Russes du sport international, c'est-à-dire de rendre en disant qu'ils ne respectent pas les principes antidopage, et ceux qui vont dire non, ils ont déjà payé leurs dettes. Alors, ça va être super intéressant de voir ce qui va se produire avec ça. Et une des manches les plus importantes là, qui s'en viennent, c'est très bientôt, c'est le 14 et le 15 janvier, donc dans pas lundi qui vient, mais le subséquent. Et ça va se passer à Montréal. Il y aura une rencontre de l'Agence mondiale antidopage. On sait que le siège social est à Montréal. Et donc, on discutera de cette situation-là. Mais déjà, la pression est très, très forte pour que l'Agence mondiale antidopage remette la Russie au banc des pénalités, si tu veux, et puis n'homologue pas les données qui sont récoltées par l'agence russe. Alors tout ça fera en sorte que... Ben, en fait, qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est très difficile à prédire, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que les Russes, à ce moment-là, ne devraient pas avoir le droit de participer aux Jeux olympiques. D'ailleurs, Thomas Bach a déjà vu venir ça parce qu'il a dit qu'il n'y a pas question qu'il ne soit pas à Tokyo en 2020, mais tu sens qu'il va avoir un choc colossal qui s'annonce là, dans les prochains jours, et c'est déjà commencé aujourd'hui.
Un dossier à suivre, Philippe Quentin. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
OK, salut Jérémy.
Merci, on s'arrête quelques instants. Je vous rappelle que le Canada va affronter la Finlande dans quelques minutes. Juste avant ce match, Stéphane Leroux est avec nous. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco.